Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La réforme des retraites, aujourd'hui, pour nombre de Français, cela va rimer avec une journée un peu compliquée, qu'à cela ne tienne, semble-t-il se dire au regard des enquêtes d'opinion qui indiquent que les Français vivraient en partie cette grève comme une grève par procuration. Des Français conscients que l'âge de la retraite doit être repoussé, mais également inquiets d'une réforme Macron qu'ils craignent trop libérale. Mais alors, qu'y a-t-il dans cette réforme? Et pourquoi les syndicats sont-ils vent debout? Et quelle incidence, par exemple, pour les familles? En cette première journée de grève, je vous propose une émission de pédagogie. Retraite, faut-il se braquer? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, pour nous en parler, Corinne Vignon, députée LREM de la 3e circonscription de la Haute-Garonne, présidente du groupe de travail sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Boris Baudouin, membre du bureau de la CGT 31 pour la Haute-Garonne. Et Pierrick Mallier-Arcelin, délégué général des AFC, Association Familiale Catholique. Je le dis tout de suite en introduction, on a voulu essayer de construire un plateau contradictoire, inviter entre autres donc la CFDT, le MEDEF, mais voilà, les circonstances font qu'en ce jeudi matin, il était compliqué d'avoir tout le monde en plateau, donc on a choisi cette émission de pédagogie. On va commencer avec vous, Corinne Vignon, puisque vous êtes avec nous juste pour le début de l'émission. On vous remercie de prendre du temps en cette journée qu'on imagine extrêmement chargée. Pour faire un peu de pédagogie, voilà, on entend beaucoup de choses sur la réforme des retraites, et comme souvent dans l'actualité, on finit par ne plus savoir trop de quoi on va parler. Alors je vais vous poser des questions toutes simples pour tenter de nous éclairer. Ma première question était tout simplement de vous demander de nous réexpliquer ce que c'est que ce régime par répartition qui est celui de la France.
Oui, c'est un régime relativement simple, qui est les actifs qui travaillent aujourd'hui cotisent pour payer les retraites des retraités d'aujourd'hui. On ne cotise pas pour sa propre retraite, on cotise pour les retraités d'aujourd'hui.
Alors, vous avez l'habitude de le répéter en disant que c'est nécessaire. Est-ce à dire que ça n'est pas tout à fait clair dans l'esprit des Français? Vous avez entre autres fait une tournée en Occitanie, j'ai vu dans un camping-car, pour faire de la pédagogie autour de la réforme des retraites. Faut-il commencer par rappeler même ce type de fondamentaux?
Absolument. Les gens n'ont pas conscience qu'effectivement, nous avons un système de solidarité très puissant en France, et que nous ne sommes pas dans un système de capitalisation, c'est-à-dire je travaille pour ma retraite. Je travaille bien aujourd'hui pour payer la retraite des retraités d'aujourd'hui.
Alors, parmi les grands traits de cette réforme, on va s'arrêter aux grands traits. On peut rentrer dans probablement une multitude de détails et de subtilités. On fera d'autres émissions. Une des grandes promesses de campagne d'Emmanuel Macron, c'était donc de passer à un régime universel de retraite par points. Expliquez-nous, Corinne Vignon, qu'est-ce que c'est que ce régime universel de retraite par points?
Donc aujourd'hui, il y a 42 régimes de retraite en France. C'est le seul pays au monde où il y a autant de diversité. La retraite a été pensée en France de façon statutaire. C'est-à-dire, je suis commerçant, je suis à l'ancien RSI. Je suis agriculteur, je suis à la MSA. Je suis salarié, je suis au régime général. Donc il y a 42 régimes. Or, l'idée est donc de n'en faire qu'un, de façon à simplifier les règles. Et aujourd'hui, nous avons un système d'annuité avec des trimestres que vous connaissez bien. Eh bien là, on va le remplacer par un système à points qui existe déjà dans les retraites complémentaires avec l'Agirc-Arrco. Et ce système à points va donner de la lisibilité et de la prévisibilité pour les gens. Les gens vont clairement recevoir chaque année un relevé de points. Et ils pourront largement calculer leur retraite avec la valeur du point et le nombre de points qu'ils auraient attribué.
Alors, est-ce que vous expliquez davantage comment se calculent ou comment se comptabilisent ces points au long d'une carrière professionnelle?
Absolument. En fait, ces points vont être en fonction des cotisations. L'idée, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein, vous avez 42 régimes de retraite et tout le monde ne cotise pas à la même hauteur. Donc, l'idée, c'est que tout le monde cotise à 28%. Comme le régime général d'ailleurs. et que ces 28% donnent des points. Alors évidemment, l'argent, concrètement, les 28% en termes d'euros, ils partent vers les caisses de retraite. Partent vers les retraités.
Je vous arrête deux secondes. 28%, c'est 28% donc des cotisations sociales, c'est ça ?
Exactement. Aujourd'hui, les 28% sont payés. Ces 28% sont payés à 60% par l'employeur et à 40% par l'employé. Bien, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, l'idée est que tout le monde cotise à 28%, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Chaque régime a des cotisations différentes. Et ces cotisations, ces 28%, vont donner des points. Évidemment, si j'ai 1 000 euros de salaire, j'aurai des points en relation avec ces 1 000 euros, en relation aux 28% par rapport aux 1 000 euros. Si je gagne 2 000 euros, j'aurai plus de points, évidemment. Mais en tout cas, ces points, le point aura une valeur qui, à ce jour, en tout cas dans le rapport de Levoix, est basée à 10 euros. Et ces points vont évoluer dans le temps, tout au long de votre carrière. La valeur va évoluer en fonction du salaire moyen par tête. Donc, ce point qui est à 10 euros le premier jour, première heure de votre travail, de votre carrière, va évoluer 40 ans plus tard, 42 ans plus tard, 43 ans plus tard, vers une valeur, je ne peux pas vous la donner puisque je ne la connais pas, puisque ça dépend, ce sera...
Ça dépend des situations.
De la situation économique du pays. Mais je pourrais vous expliquer qu'en tout cas, ce point ne baissera jamais. Ça sera inscrit dans la loi. Et ça, c'est très important.
Donc, si je résume, une valeur minimale du point, de toute façon, oui. Même si cette valeur est minimale, elle augmente au fur et à mesure des années, et il y a plus de points, on va dire, acquis quand le salaire est important. Est-ce que vous pouvez juste nous redire ce qui préside en fait à cette réforme des retraites? Quelle est l'intention profonde présentée par le gouvernement, et quelle était celle du candidat Emmanuel Macron, puis du président Emmanuel Macron?
Alors, les grands principes, un système donc universel, au lieu des 42 régimes, un seul, un système qui soit adaptable aux nouvelles conditions de travail. Vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes, ils vont travailler peut-être 5 ans aux États-Unis, ils reviennent, ils changent de métier. Et puis, n'oublions pas une chose, c'est que nous ne connaissons pas les nouveaux métiers. C'est-à-dire les nouveaux métiers dans 20 ans, s'il faut créer à chaque nouveau métier un régime de retraite, excusez-moi, mais ça va être très, très, très compliqué. Donc, l'idée, c'est qu'on ait un système adaptable aux nouvelles formes de travail. Un système équitable, de façon à ce que je cotise 28%, j'ai donc les mêmes droits. 1 euro cotisé donne les mêmes droits. Et également, un système qui soit soutenable dans le temps, c'est-à-dire qu'en termes de finances, on soit sûr qu'on puisse payer les retraites dans le temps, puisque vous imaginez qu'un gouvernement ne fait pas une loi pour dans un an ou dans deux ans, mais là, on doit avoir une prévisibilité, on doit voir les choses sur le long terme, sur les 50 ans qui viennent.
Alors, Corinne Vignon, on continue à avancer donc dans cette pédagogie autour de la réforme des retraites. Évidemment, ça donnera lieu à des discussions, des commentaires de nos autres invités. Mais voilà, je me suis dit qu'il était important de vous laisser un peu de temps pour expliquer ça. Déjà, un quart d'heure, c'est probablement bien peu. Il y a donc un autre sujet qui est l'âge de départ à la retraite. Ce que j'ai compris, c'est que donc, on va dire, pour qu'il y ait plus de sous dans les caisses, je le fais de manière très triviale, soit on cotise davantage, c'est-à-dire il y a un pourcentage, un taux, comme vous disiez, plus important, soit les pensions sont moins élevées, soit il faut travailler plus longtemps. Donc le gouvernement aurait choisi cette solution. Dites-nous ce qu'il en est. On entend parler d'âge de départ, d'âge pivot, parfois on s'y perd. Quelle est la proposition?
Alors la proposition est simple en réalité. L'âge légal de départ à la retraite, eh bien, 62 ans. Ce qui veut dire, en très clair, vous décidez de partir à la retraite à 58 ans parce que, pour des raisons X, Y, vous souhaitez arrêter de travailler, eh bien, vous n'aurez jamais de pension de retraite avant 62 ans. Donc ça, c'est l'âge légal. Parallèlement, vous connaissez dans le système actuel, il y a ce qu'on appelle l'âge de taux plein. Le taux plein, aujourd'hui, c'est avoir l'ensemble des trimestres qui vous permettent d'avoir une pension correcte. Bien. Il se trouve que nous avons aujourd'hui constaté que les personnes du régime général partaient en réalité non pas à 62 ans, mais à 63 ans et demi. C'est la moyenne de départ. Et c'est 63 ans et demi, pourquoi ? Ben pour que les gens aient le taux plein, ils attendent cet âge-là. Aujourd'hui, il existe déjà un système de décote et de surcote. Si vous n'êtes pas au taux plein, vous avez une décote. Si vous travaillez au-delà de l'âge taux plein, vous avez une surcote. Ça, c'est le système actuel. Eh bien, ce que propose M. Delevoye, c'est 62 ans reste l'âge légal, 64 ans, et pas 63 ans et demi, 64 ans va être l'âge pivot, mais il est plus clair de dire, ça va être l'âge de taux plein. Ce qui veut dire que si vous voulez partir à 62 ans, eh bien pas de problème, mais vous aurez une décote. Et si vous voulez travailler jusqu'à 66 ans, 65 ans, vous aurez une surcote. Et ça, c'est déjà ce qui se passe dans le système actuel.
Donc ça, c'est pour un éclairage. En tout cas, donc il est décidé un allongement quand même de la durée de travail. On peut dire ça aussi quand même de manière simple, non ?
Oui. Alors oui, un allongement. Pourquoi ? Vous savez qu'on gagne un trimestre de vie par an aujourd'hui. Tous les pays de l'OCDE ont des âges de départ à la retraite, 65 ans en Italie, en Allemagne. En Suède, on va vers les 69 ans. Alors imaginez-vous. Donc, les gens vivent plus vieux, c'est une bonne nouvelle. Il se trouve qu'en France, et ça il faut quand même se le dire, nous sommes le pays, un, où on part le plus jeune, et deux, où on vit le plus vieux. Donc, évidemment, nous avons un nombre d'années à la retraite qui est de 28 ans. Mais 28 ans, il faut payer les pensions pendant 28 ans et tous les mois. Donc, à un moment donné, il faudrait que l'âge passer à la retraite soit plus court. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on passe 28 ans à la retraite, il faudrait qu'on passe 26 ans, 25 ans. Voilà. C'est ça, pour qu'on ne baisse pas les pensions.
Alors à propos de ces histoires d'âge, il y a aussi, on entend parler donc de la clause du grand-père. Oui. Fait partie de cette réforme, donc la suppression des régimes spéciaux. Donc on lit dans la presse qu'il y a 42 régimes spéciaux en France. Donc ça serait la fin de ces régimes spéciaux, entre autres régimes spéciaux donc de la RATP, la SNCF, mais ce ne sont pas les seuls. Quid de cette clause du grand-père ? On peut lire ça dans la presse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'elle est et si oui ou non elle va exister ?
Oui, alors la clause du grand-père est une clause qui existe depuis des années. À l'époque, c'était pour les personnes qui avaient des alambics, donc ça date de... C'est très, très, très ancien. L'idée de la clause du grand-père est de dire seuls les nouveaux entrants dans un régime seront touchés par ce nouveau régime. D'accord ? Ce qui veut dire que...
Les nouveaux entrants, c'est-à-dire à date de 2019 ou...
À date de 2025, puisque la réforme va être votée en 2020, mais ne sera appliquée qu'en 2025. Donc ça veut dire qu'une personne, ça voudrait dire qu'une personne qui travaille, on va dire à la SNCF ou la RATP ou chez EDF, etc., dans ces régimes spéciaux, une personne qui est rentrée au mois de décembre 2024 resterait dans l'ancien régime. Mais que la personne qui rentre au 2 janvier 2025 rentrerait dans le nouveau régime. Alors, si vous voulez, c'est très compliqué, parce que ça veut dire que toutes les personnes qui aujourd'hui travaillent dans un régime spécial, dans une entreprise qui a un régime spécial, EDF, je vous dis, peu importe le régime, eh bien, ça veut dire qu'une personne qui a 2, 3 mois, 1 an d'ancienneté, garderait l'ancien régime, c'est-à-dire le régime actuel d'aujourd'hui. Eh bien, c'est pas possible, parce que ça veut dire à ce moment-là que c'est dans 45 ans que la personne sortira de ce nouveau, de cet ancien régime,
donc,
sortira du système.
Donc exit la clause du grand-père, ça ne fait pas partie de la réforme, a priori.
Non, alors ça a été mis sur la table, mais ce n'est pas, ça ne fait pas partie de la réforme, c'est inenvisageable, inenvisageable.
Alors Corinne Vignon, je vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'aurais peut-être une dernière question. On aurait pu dire aussi, chose importante, qu'aujourd'hui le calcul donc, des pensions ne se fera plus donc, sur les 25 meilleures années, mais sur l'ensemble de la carrière, et ce pour tout le monde, si j'ai bien compris. Il y a une opposition donc, syndicale, mais aussi politique, forte à cette réforme des retraites. Toutes les composantes de la gauche, peut-on dire dans la presse, soutiennent la mobilisation. Mobilisation donc de ce jour, mobilisation du 5 décembre à l'appel de très nombreuses organisations syndicales, dont la CGT est représentée sur ce plateau. Est-ce une réforme équitable, même si toute la gauche est vent debout contre cette réforme, Corinne Vignon ?
Oui, c'est une réforme, mais alors on ne peut plus équitable. Et par rapport à votre question, qui est tout à fait juste, vous vous dites, avant c'était calculé sur les 25 meilleures années pour le régime général. Maintenant, ça va être sur toute la carrière. Dans l'esprit des gens, c'est « je vais y perdre ». Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que dans le nouveau régime, lorsque vous êtes en période de chômage, lorsque vous êtes en période de maladie, lorsque vous êtes en arrêt pour la maternité, eh bien, au lieu qu'on vous donne du temps, c'est-à-dire des trimestres, on va vous donner des points, on va vous donner de l'argent. Donc, ces mouvements de carrière, c'est plein et délié dans une carrière qui font qu'à un moment donné, on a des carrières heurtées. Eh bien, aujourd'hui, alors qu'on vous donnait des trimestres, vous savez, par exemple, pour le chômage, vous avez un an de chômage, vous avez 4 trimestres non cotisés, c'est-à-dire qu'on vous donne du temps. Mais par contre, aujourd'hui, on vous donnera des points de l'argent. Et donc, ce qui fait que, de ce fait, c'est le fait que ce soit... calculé sur toute la carrière, eh bien, les trous dans votre carrière vont être compensés par des points. Et ça change tout.
Allez, Corinne Vignon, une question bonus. Si vous avez encore quelques minutes, on a pu lire dans la presse que vous essayez de porter quelques sujets, comme à l'occasion de cette réforme des retraites, donc comme la situation des stagiaires, l'égalité homme-femme, les aidants familiaux. Mais j'ai aussi lu que vous étiez attentif à la question du monde des retraites dans le monde agricole. Nous, dans notre sud-ouest et dans le territoire que couvre la radio, il y a de nombreux territoires dits ruraux. Quel est le point d'attention particulier que vous portez à l'égard donc de ce secteur primaire, comme on dit ?
Les agriculteurs font partie des personnes qui sont totalement pour la réforme, parce qu'ils savent, hein, ils le savent aujourd'hui, le système fait qu'ils ont 650, 700 euros de retraite, ce qui est dramatique. Et le nouveau système va leur apporter 1000 euros de retraite minimum. Donc ça, c'est sensationnel pour eux. Et ils sont totalement pour cette réforme. En revanche, la difficulté aujourd'hui, c'est que actuellement, les personnes qui sont dans l'ancien système, eh bien écoutez, ils ne seront pas touchés par la réforme, puisque la réforme, a priori, parce que je ne sais pas quels sont les arbitrages, a priori, bénéficierait de cette retraite minimum, les 1000 euros, que les personnes qui rentrent dans le système en 2025. Maintenant, les arbitrages ne sont pas faits. Donc moi, je vais être très attentive parce qu'il faut, qu'on puisse aider les retraités d'aujourd'hui, même si une loi n'est pas rétroactive et que ce sont les nouveaux entrants normalement dans le système à partir de l'année 1963, apparemment, hein, puisque sauf erreur, ça ne devrait pas changer. À partir de là, je pense qu'il faut... Pensez également à tous les retraités d'aujourd'hui et trouvez une façon pour qu'ils puissent avoir une retraite plus digne, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, 650 ou 700 euros de retraite, c'est plus admissible.
Voilà, 1963, j'apporte juste une précision, c'est que si on fait 63 plus le nombre d'années de cotisation, et ben on arrive justement à 2025. Merci beaucoup Corinne Vignon d'avoir pris le temps en cette journée de grève nationale de faire un peu de pédagogie. On va faire une première pause musicale et puis on va retrouver nos invités pour commentaire de cette présentation. Merci beaucoup.
Merci.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Retraite, faut-il se braquer? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, cette grande journée de grève à l'occasion donc de ce jeudi 5 décembre. Autour du plateau, pour nous en parler, pour rappel, Corinne Vignon, qui était avec nous au début de cette émission, députée LREM de la 3e circonscription de la Haute-Garonne, présidente du groupe de travail sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Boris Baudouin, membre du bureau CGT 31. Et à la fin de cette émission, Pierre Mallier-Arcelin, délégué général des AFC, association familiale catholique. On aurait aimé que l'émission soit davantage une émission de débat, comme je le disais au début de l'émission. Vous avez répondu, Boris Baudouin, à l'appel, on vous remercie, mais je dis quand même aux auditeurs, je leur redis qu'on avait aussi sollicité donc la CFDT et le MEDEF afin d'avoir quelques avis contradictoires, mais qu'à cela ne tienne, on va faire de la pédagogie, comme ça on aura un peu les grands clivages à l'occasion de cette réforme des retraites. Je voulais commencer par réagir à une phrase que j'ai lue dans un de vos communiqués. En effet, aucun doute à avoir avec ce projet de réforme, nous serons toutes et tous perdants. Qu'entend la CGT par cela, Boris Baudouin?
Bonjour déjà, à quelques heures de la manifestation, là, je voulais vous remercier quand même pour cette invitation. Vous savez que le débat contradictoire, même là, ce sera plutôt des avis contraires. C'est important, oui, toutes et tous concernés, parce que jusqu'à maintenant, les contre-réformes des retraites, c'était des réformes qu'on appelait paramétriques, c'est-à-dire qu'on touchait aux paramètres. On touchait soit l'âge légal de départ à la retraite, le nombre de trimestres, soit un système de décote, comme a dit tout à l'heure la députée de La République En Marche. Là, c'est une réforme systémique, c'est-à-dire on touche au système, on revient, ce qu'on dit en terre rugbystique occitane, aux fondamentaux, c'est-à-dire ce qui avait été créé après l'après-guerre, la Seconde Guerre mondiale. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Demain, tout le monde, toutes et tous sont concernés parce que la retraite par points, ça va concerner tout le monde. Et du coup, là, on va cotiser en fonction de ses moyens et on ne recevra plus en fonction de ses besoins, mais en fonction des moyens qu'on a mis pour partir à la retraite.
Alors refaites-nous cette équation-là, moyen-besoin, qu'on comprenne bien, qu'on se le mette dans la tête.
Alors jusqu'à maintenant, il y a un système de solidarité par répartition, comme a expliqué tout à l'heure la députée, c'est-à-dire qu'il y a une certaine solidarité à la française, qui est issue de l'après-guerre, Ambroise Croizat, hein, qui était ministre métallurgiste CGT, qui a mis en place ça en 1945. Donc chacun cotisait en fonction de ses moyens et recevait en fonction de ses besoins. Demain, on cotisera en fonction toujours de ses moyens. Par contre, on recevra en fonction des moyens qu'on a mis sur la table et puis en fonction des besoins pour lesquels on a de partir à la retraite et puis d'avoir toujours un système solidaire. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une réforme de fond en comble, systémique. D'ailleurs, le gouvernement le dit aussi. Et c'est pour ça qu'on est vraiment toutes et tous concernés. Et c'est vraiment un refondement de notre système solidaire social en France qui est demain voudrait être touché par Emmanuel Macron et le gouvernement.
Alors qu'est-ce que vous entendez par par tous perdants aussi? C'est-à-dire que toutes les catégories socio-professionnelles vont être impactées, qu'au final, ce que vous dites souvent, c'est qu'on va tous contribuer plus pour recevoir moins. Expliquez-nous aussi ce slogan. Ça veut dire quoi, contribuer plus pour recevoir moins concrètement?
Alors contribuer plus, c'est-à-dire que je reviens à chaque fois sur les propos hein, qu'a dit la députée pour essayer faire le contradictoire.
Bien sûr, ouais. On vous réinvitera hein, avec un plateau où les gens
avec grand plaisir
se répondent directement.
C'est-à-dire que là, elle a dit que l'âge légal, effectivement, de départ à la retraite, c'est 62 ans. Elle a dit tout à l'heure que c'était à peu près la moyenne 63,5 à lesquels les gens partaient.
Dans le privé, que, hein, il me semble qu'elle a dit.
Oui, dans le privé, parce que pour pouvoir justement outrepasser cette décote qui pénaliserait le montant de la pension ou de la retraite. Avec ce système-là, comme le calcul ne sera plus fait sur les 25 dernières années sur le privé ou les 6 derniers mois pour la fonction publique.
Donc ça, c'est important de le repréciser, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure.
25 donc dernières années,
c'est pour le privé,
et 6 derniers mois, pour le public. Ça,
tout le monde va être la même enseigne maintenant, la carrière professionnelle.
Toute la carrière professionnelle, et c'est là où c'est important. Puisque généralement, enfin j'espère que c'est le cas pour un grand nombre d'auditeurs et d'auditrices, le salaire quand on démarre la carrière et le salaire à la fin, généralement j'espère qu'il est plus haut pour tout le monde à la fin de la carrière, à la fin de ses 42 ans de travail. Mais quand on prend en compte les 25 dernières années, si on s'arrête qu'au privé, Ça veut dire que les 17 années pour lesquelles on a pu être en précarité ou les plus bas salaires ou du temps partiel imposé ou autre, celles-là ne sont pas prises en compte. Demain, avec le système par points, comme elle l'a expliqué, on va cotiser à 28% sur le montant de son salaire, grosso modo. Hein. Donc ça veut dire que si on a un temps partiel imposé, je pense notamment à tout ce qui est dans le commerce, notamment les caissières dans les supermarchés, si on est en période de précarité, si on est en période de chômage, donc on va avoir des baisses de revenus, donc on va cotiser moins, on va cotiser moins de points par rapport à la retraite qu'on devra toucher. Donc de fait...
Mais ça sera intégré. Mais ça sera intégré, nous dit-elle. Elle nous dit que la nouveauté, c'est que justement ces périodes de
la nouveauté, c'est qu'on va intégrer
de trous d'air, de chômage, de maladies seront intégrés.
On va intégrer la précarité. Ouais, c'est une grande avancée, je pense, pour notre système en France. Jusqu'à l'heure actuelle, il y a des trimestres, elle l'a dit elle-même, hein, qui sont donnés, que ce soit la maternité ou le chômage. Il y a des trimestres qui sont donnés en compensation de ces périodes, malheureusement, de haut et de bas plutôt dans la vie professionnelle. Et donc c'est déjà compensé, mais surtout c'est que généralement c'est mis de côté, à moins qu'il y ait vraiment une période très importante de précarité, et malheureusement ça arrive hein, quand même pour un grand nombre de salariés, mais normalement c'est mis de côté pour un certain nombre de salariés en France.
Avec ce système, avec le système actuel. 25 dernières années. Alors juste sur les 25 ans et les 6 derniers mois, est-ce que quand même vous reconnaissez qu'il y a une forme d'inéquité entre le privé et la fonction publique sur ce sujet, et qu'il y a des Français qui peuvent être agacés par ça ?
Alors, inéquité, au final, il y a quand même à peu près 75% à l'heure actuelle du reversement qui est fait pour les salariés, soit du public ou du privé, soit par un système pour le privé de compensation des retraites, notamment, je pense, au cadre aussi, tout ce qui est ARJIRC-ARCO.
Mais, retraite complémentaire.
Retraite complémentaire. Mais on a toujours, en fait, été sur ce clivage-là, essayer de monter les uns et les autres, public, privé, de vouloir maintenant mettre à l'index les régimes spéciaux. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il ne faut pas raisonner là-dessus, il faut plutôt essayer de raisonner à ce que justement ces inéquités qui peuvent exister, parce que elles existent, hein, je ne vais pas dire le contraire.
Est-ce qu'elles étaient justifiées d'une certaine manière ? Est-ce qu'elles sont justifiées ? Parce qu'on gagnerait moins dans la fonction publique ?
Elles ont toujours été justifiées, je pense à la réforme Balladur en 93, la réforme Fillon en 2005 et autres. Ça a toujours été sur, justement, en disant qu'il y a toujours un qui est mieux payé ou qui a une meilleure retraite. Donc il faut toujours niveler, malheureusement, tout le monde par le bas au nom de l'équité.
Mais ma question, c'était plutôt, est-ce que selon vous, il est justifié justement que dans la fonction publique, on ne garde que les 6 derniers mois parce que, par exemple, les salaires seraient structurellement moins importants pour une bonne partie des fonctionnaires ?
C'était le fait que les 6 derniers mois, en fait, pour le système de retraite des fonctionnaires, ne prend en compte que le salaire sur le point d'indice. Tout ce qui est prime, notamment, je suis issu des finances publiques, à peu près le tiers de notre salaire, c'est des primes. Donc ça veut dire que quand on part à la retraite, même par rapport à un autre collègue de la fonction publique qui, lui, est plutôt basé que sur le point d'indice, même déjà rien qu'entre nous, dans la fonction publique, il y a de l'inéquité. Les 6 derniers mois à l'heure actuelle sur la fonction publique, c'est que sur le salaire hors prime. Donc ça veut dire que c'est pas plus juste ou moins juste qu'un salarié du privé pour lequel c'est calculé sur les 25 dernières années.
Allez, on continue la pédagogie, hein. Il faut que les auditeurs s'accrochent, mais en même temps, comme ça, ils seront incollables et puis ils auront au moins quelques billes importantes. Il y a quelque chose qui revient, dans l'appel des différents syndicats. On a d'ailleurs oublié de les citer, les principaux syndicats qui appellent à cette grève aujourd'hui, CGT, FO, Solidaire, FSU et donc depuis peu SFE-CGC, qui est le syndicat majoritaire des cadres, et puis nombre d'organisations étudiantes. Autre chose qui est soulignée, c'est une règle des 14% du PIB. Alors à vous lire dans vos communiqués, il fallait chercher tout en bas du rapport du haut commissaire aux retraites. C'est quoi cette règle des 14% du PIB et pourquoi est-ce que vous tous, syndicats, vous êtes vent debout contre cette règle ?
Alors je vais essayer de prendre une image pâtissière, on va dire. Ça donnera peut-être envie de donner l'appétit avant midi tout à l'heure, ou de faire une pause café. Blague à part, donc en fait, c'est-à-dire que le gouvernement dit que la masse qui est dédiée en fait aux retraites et aux pensions ne peut pas dépasser 14% du PIB. Et en fait, là où...
Ne dépassera pas l'avenir, c'est ça ?
Ne dépassera pas l'avenir. Donc ça veut dire que qu'on soit plus ou moins nombreux, la part du gâteau à se partager, elle sera toujours la même. Et c'est là, nous, on dit, attention... Puisque effectivement, comme ça, là, tout à l'heure, la députée de la République En Marche a dit qu'effectivement, On vieillissait un peu plus, il y avait plus de personnes âgées à l'heure actuelle en France.
Plus un tiers à l'horizon de retraité à l'horizon 2050.
Personnes en bonne santé, ça c'est un autre débat, hein, parce qu'il y a certains rapports qui sortent que justement l'âge d'être en bonne santé est en fait en train de régresser en France par rapport aux conditions de travail, de la précarité et autres, mais c'est un autre débat, mais c'est quand même lié. Donc ces 14% de PIB seront à se partager, peu importe le nombre de personnes qui seront présentes. Donc ça veut dire que si on reste là-dessus, ça veut dire que de facto, puisque la démographie va continuer à augmenter et que le nombre de retraités vont continuer à grossir en nombre, ça veut dire que la part du gâteau sera moins toujours le même nombre, mais on sera plus important à vouloir une part du gâteau. Donc comme c'est un système plus ou moins solidaire, on a tous une petite part au lieu d'avoir les plus grosses parts à se partager.
Dernier point, et après j'aimerais que vous nous expliquiez quelles sont les propositions de vos organisations syndicales, enfin en tout cas de celles que vous représentez, c'est la valeur des points. Vous dites donc que la valeur des points demain sera fonction de la situation économique et démographique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le gouvernement ne fixe pas une bonne fois pour toutes la valeur du point, un point égale tant, et du coup il égale tant d'euros et demain tant de retraites, mais on va dire il y aura une variable d'ajustement dans les années à venir.
Tout à fait. D'ailleurs, là, ce que vend le gouvernement, c'est un euro cotisé, c'est un euro rendu. La députée République En Marche tout à l'heure disait que ce serait inscrit dans la loi, donc ça ne pourra jamais être plus bas que la valeur où ce sera mis en place. On est très sceptique. D'ailleurs, elle a cité le système suédois.
Et, inflation comprise, on imagine quand même.
Oui, et sur le système suédois, par exemple, la valeur du point n'a cessé de chuter. Donc on est à l'heure actuelle, on était à 70% de reversion sur la part qui était rendue par rapport entre son salaire et sa retraite. On est à 50% à l'heure actuelle en Suède. Il y a des perspectives qui sont faites d'être alors demain 32%. Donc c'est une chute vertigineuse sur le montant des salaires et des pensions pour les Suédois et pour les Français. En le lien avec le 14% du PIB, du fait qu'on sera plus nombreux, et s'il y a des conjonctures économiques qui sont là, ils pourront baisser de facto le montant, la valeur du point. Donc quand la députée de La République En Marche dit « ce sera une meilleure visibilité », c'est faux. La seule visibilité qu'il y aura, c'est le nombre de points acquis tout au long de sa carrière. Et encore, pour faire une prospective, ça c'est compliqué, puisque on ne sait pas demain si on pourra garder son emploi, si on pourra progresser d'un point de vue du salaire ou autre. Donc ça veut dire qu'il n'y aura aucune visibilité, si ce n'est que demain, on ne saura pas en fait avec quel montant on partira à la retraite, alors qu'à l'heure actuelle, si vous faites des consultations auprès des différents organismes qui vous payent les caisses de retraite, qui vous payent votre retraite, vous pouvez avoir une perspective fiable à quelques euros près sur le salaire auquel vous prétendez. Alors actuellement, j'ai 47 ans, je reçois déjà
Des
estimations, voilà, merci. Et ces estimations, à moins qu'il y ait la contre-réforme, ce sera à peu près ce qui demain me sera donné quand je partirai à la retraite. Demain, ce ne sera pas le cas.
Alors les propositions, parce que évidemment ce qu'on peut vous rétorquer tous, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous proposez? Ce que j'ai trouvé, donc les trois principales mesures, enfin j'en cite trois, deux, et puis vous compléterez éventuellement. La principale mesure que vous proposez, voilà, qu'elle m'échappe, je vous prie de m'excuser, dites-nous, vous avez la parole là. Oui, pardon, d'augmenter les salaires et le taux de cotisation. Vous voyez, je suis fatigué alors que c'est le matin. Mais...
c'est surtout, et puis la question de l'emploi aussi.
Augmentation des salaires.
Augmentation des salaires, c'est-à-dire si on augmente les salaires, forcément on augmente les cotisations, donc on augmente l'alimentation de notre système par répartition à l'heure actuelle. Et par contre, comme elle a dit aussi la députée République En Marche, effectivement, sur les cotisations à l'heure actuelle, il y a 60% qui est pris en charge par l'employeur et 40% que la salariée verse, ce qu'on appelle le salaire socialisé, le salaire différé. C'est pour les retraités actuels et les retraités à venir. Nous, ce qu'on propose, c'est d'augmenter un peu plus la part patronale, d'avoir 10% de points supplémentaires, qui soit simplement sur la part de l'employeur, parce qu'on estime qu'il faut relancer le débat capital-travail, c'est-à-dire cette confrontation entre ceux qui produisent des richesses et ceux qui en bénéficient.
Alors 10%, il faut juste préciser, c'est 10% sur la rémunération qui aujourd'hui ne sont pas soumis au régime
complémentaire. Oui, tout à fait. Oui, qui sont.
Donc c'est les intéressements, participation, épargne salariale, etc. Là, vous proposez un plus 10 pour l'entreprise.
Voilà, parce que ça permettrait déjà aussi d'avoir un regard aussi sur la vertu ou pas de l'entreprise par rapport à ses investissements, tout ce qu'elle peut faire, même au point de vue écologique. Hein, donc on estime que voilà, il faut prendre l'argent là. Les entreprises du CAC 40, dernièrement encore, On fait je ne sais pas combien de profits, 80 milliards qui ont été redonnés aux actionnaires. Donc quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent et que le système est en péril, nous on estime qu'il y a de l'argent. Et surtout, on va peut-être un peu loin, mais on estime aussi qu'il faut s'attaquer au chômage. Et pour ça, ça permettrait d'avoir plus d'emplois et il faut relancer ce qui est la réduction du temps de travail. Passer à 32 heures, ce serait peut-être aussi un moyen de sauver notre système actuel de régime par répartition.
Alors je cite d'autres propositions. Donc vous avancez une politique d'égalité salariale homme-femme. Vous dites que ça pourrait être un levier important, on imagine entre autres pour les femmes. La validation de 3 années d'études. Et puis votre organisation, en tout cas la CGT, droit de travailler jusqu'à l'âge de la retraite. Laissant entendre aussi que donc le chômage des seniors étant tellement important que ça peut porter préjudice à ce nouveau système qui est proposé par le gouvernement. Allez, on fait une deuxième pause musicale et puis on vous retrouve. On sera cette fois donc avec Pierrick Mallier-Arcelin, délégué général des AFC, Association Familiale Catholique. On parlera du volant qui concerne les familles et là, vous pourrez vous parler. Formidable. Retraite, faut-il se braquer après une courte pause musicale? On court après le temps, comme tout le monde. Tout le monde court, probablement, ou tout le monde... Non, tout le monde court. Je ne sais pas si tout le monde court aujourd'hui, en cette journée de grève. Retraite, faut-il se braquer? Autour du plateau, au début de cette émission, Corinne Vignon était avec nous, entre autres présidente du groupe de travail sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. En plateau, Boris Baudouin, membre du bureau CGT 31. Et nous a rejoint donc Pierrick Mallier-Arcelin. Vous êtes délégué général des AFC, Associations Familiales Catholique. Bonjour. Merci d'être avec nous. Charge à vous donc dans cette dernière partie de répondre à quelques interrogations qui concernent les familles, puisqu'quand on se penche sur cette réforme, et les familles pourraient être impactées. Alors il y a différents volets. On va y venir. Là aussi, on est technique, mais on fait de la pédagogie, c'est le choix de cette émission. Il y a la fameuse majoration de durée d'assurance, l'assurance vieillesse des parents au foyer, majoration de pension pour les pères et mères de familles nombreuses. Avant tout ça, quelle est la position un peu des AFC sur cette réforme des retraites? Je ne sais pas, pour dire les choses de manière triviale, est-ce que le pouce est en l'air ou est-ce que le pouce est vers le bas?
Alors la position des AFC, elle est plutôt le pouce vers le bas pour le moment, ou plutôt le pouce à l'horizontale si vous préférez. Pour une raison très simple, c'est qu'actuellement le projet de réforme de Monsieur Delevoye nous apparaît pas suffisamment clair d'une part, donc on n'a pas tous les moyens pour juger de la qualité de cette ce projet, et d'autre part, il nous semble que tel que nous l'avons compris et tel qu'elle est envisagée aujourd'hui, elle se ferait au détriment des familles.
Alors, au détriment des familles, donc on va rentrer dans le un petit peu plus dans le détail. Il y a donc des droits qui sont attachés, on va dire, aux familles pour soutenir aussi la natalité, hein, parce qu'on a oublié de le dire depuis le début de l'émission, mais pour qu'il y ait des retraites, il faut surtout qu'il y ait des enfants, et parce qu'il faut qu'il y ait demain des actifs, sinon il y aura plus de retraite, tout simplement, ou en tout cas le ratio entre, on va dire, cotisants et retraitants sera trop déséquilibré. On va se pencher sur un premier aspect, donc c'est la majoration de durée d'assurance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui existe aujourd'hui, Pierrick Mallier-Arcelin, et ce qui pourrait être le cas demain avec cette réforme?
Oui, bien sûr. Alors, pour ce qui existe aujourd'hui, la majoration de durée d'assurance, c'est un système qui prévoit que, quel que soit le nombre d'enfants, 8 trimestres d'assurance par enfant soit attribués aux parents. Alors, il se trouve que dans 65% des cas, Cette majoration de durée d'assurance améliore le montant de la pension de la femme et dans 20% des cas, elle permet aux femmes d'avancer leur départ en retraite. Mais si vous voulez comprendre si vous voulez bien comprendre, vous parliez vous-même de pédagogie, c'est des sujets qui sont assez complexes. Et pour tout dire, ce que prévoit la réforme, c'est de modifier la majoration de durée d'assurance, mais en même temps de le fusionner avec un deuxième dispositif qui est celui des majorations de pension pour les pères et mères de familles nombreuses.
Alors juste, je m'arrête un tout petit peu. Majoration de durée d'assurance, donc vous dites ça fait 8 trimestres en tout. En fait, il y en a 4 par accouchement.
Alors,
voilà, et 4 pour éducation. Voilà, 4 pour accouchement et 4 par éducation. En tout cas, c'est ce qui existe aujourd'hui. Alors, puisque vous dites que ça va avec les majorations de pension pour les pères et mères de familles nombreuses, que les auditeurs tiennent bon et prennent leur stylo, qu'est-ce qui existe aujourd'hui et qu'est-ce qui va exister demain et comment le gouvernement veut fusionner les deux comme ça ?
Alors, ce qui existe aujourd'hui, c'est trois systèmes. C'est donc la majoration de durée d'assurance, on vient de l'évoquer. La majoration de pension, qu'on a évoquée aussi et qui est prévue d'être fusionnées dans le futur système. Et le troisième, c'est l'assurance vieillesse des parents au foyer. Ça, on pourrait y revenir après, puisque c'est dans le système de réforme, c'est un dispositif qui évoluerait en tant que tel, sans être fusionné à un dispositif préexistant.
Mais alors, pour les mères et pour les pères de ma famille nombreuse, juste, qu'est-ce qui existe aujourd'hui et qu'est-ce qui va exister demain et en quoi c'est fusionné avec cette fameuse majoration de cette fameuse MDA ?
Ouais. Alors, cette majoration de pension, c'est un supplément de 10% du montant de la pension de chaque parent à partir du troisième enfant. Voilà, très simplement, une majoration de 10% de la pension. Là où le projet prévoit de fusionner ces deux dispositifs, c'est qu'il prévoirait d'attribuer non plus 10% à partir du troisième enfant ou non plus les trimestres de cotisation, mais 5% de majoration de pension par enfant élevé à partir du premier enfant. Voilà, c'est ça qui est actuellement prévu.
Alors, donc si je continue à essayer de vous accompagner dans cette pédagogie, ça faisait 20% pour deux parents, demain ça en fera plus que 15 si on a trois enfants, à vous comprendre.
Exactement.
Et exit les 8 trimestres, puisque demain c'est un régime par points. Donc en fait, la majoration de durée d'assurance pour les accouchements et pour l'éducation, en fait, sort du... On n'est plus, on va dire, récompensé pour cette partie-là, en fait, c'est ça ?
En substance, c'est ça. Il est bien évident dans un système comme celui-ci, il paraît évidemment égalitaire. Ce que je vous décrivais tout à l'heure, le manque de transparence, c'est qu'effectivement, M. Delevoye présente ce projet comme enfin la prise en compte du premier enfant. Ce qui est inexact en réalité, puisque le dispositif prenait déjà en compte le premier enfant, notamment par cette majoration de durée d'assurance, puisqu'il le prenait en compte dès le premier enfant. Donc on voit bien qu'il y a déjà une volonté de présenter cette réforme sous un jour qui soit plutôt favorable, alors qu'en réalité, il l'est plus ou moins. Alors plus ou moins, je m'explique. Évidemment, pour les familles de un ou deux enfants, si vous additionnez les chiffres, vous trouverez qu'elle gagnerait au nouveau système. En revanche, les familles de trois enfants, et vous l'avez très justement remarqué, pour celles-là, je passe évidemment des systèmes de conditions de ressources, de revenus, d'allocations, mais en tout cas, il n'est absolument pas certain à l'heure actuelle qu'elles en sortiraient gagnantes.
Alors, autre point, si j'ai bien compris, c'est qu'enfin, ces droits seraient calculés sur 60% du SMIC et non plus sur le SMIC complet. Ai-je bien lu ? Est-ce que vous pouvez préciser ça ? J'ai trouvé ça sur le site des AFC, justement.
Pardonnez-moi, vous parlez de quel dispositif ?
Que les droits seraient calculés, donc c'est... Alors non, pardon, passons à l'AVPF, voilà.
Oui, voilà.
Voilà, l'AVPF.
Ouais. Alors, on peut se mélanger les pinceaux assez facilement.
On y arrive.
Donc, l'AVPF, l'assurance vieillesse des parents au foyer, jusqu'à présent est calculée effectivement sur... C'est une assurance qui consiste en trimestres cotisés sur la base d'un SMIC et qui bénéficie aujourd'hui aux mères qui ont interrompu ou réduit leur activité pour élever un enfant ou aux femmes bénéficiaires de certaines prestations familiales, comme le complément familial par exemple, qui peut être perçu jusqu'aux 20 ans de l'enfant. Et c'est là justement que l'évolution de ce système, de ce dispositif, vous l'avez très bien dit, d'une part, ne serait plus calculé que sur 60% du SMIC et non pas 100% comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi, je viens d'évoquer les 20 ans de l'enfant, en réalité, dans le nouveau système prévu par M. Delevoye, ce serait plus que jusqu'aux 3 ans de l'enfant.
Alors, Pierrick Mallier-Arcelin, donc je rappelle, vous êtes délégué général des AFC, Association familiale catholique. Est-ce que vous avez été consulté? Je sais que les syndicats ont beaucoup reproché au gouvernement d'avoir consulté, enfin d'avoir conçu la réforme après d'avoir mené des consultations, mais que c'était un dialogue de sourds. Alors, on entend souvent ça à l'occasion des conflits sociaux en France. Hein. Vous, quel est un peu votre point de vue sur ce sujet?
Alors, nous, AFC, nous n'avons pas été consultés sur cette réforme. Pourtant, Dieu sait, vous le dites vous-même, qu'il y a eu de nombreuses consultations depuis de nombreux mois. Donc nous interpellons directement, c'est-à-dire que nous envoyons des rapports, nous prenons des contacts qui s'avèrent pour le moment plutôt infructueux. Nous avons un deuxième levier, c'est celui de notre appartenance à l'UNAF, l'Union Nationale des Associations Familiales, qui travaille énormément ces sujets de politique familiale qui sont, comme on le constate, infiniment complexes. Et par le biais de l'UNAF, nous parvenons justement à alerter et à dénoncer ces injustices qui seraient faites aux familles. Et enfin, j'ajoute une chose qui me semble, vous l'avez peut-être évoqué avant que je n'intervienne, mais il y a quelque chose d'assez paradoxal mettre des pansements sur une jambe de bois. Tout le monde est conscient, et je crois que personne ne reviendra sur l'idée qu'il faut faire quelque chose qu'il faut faire évoluer notre système de retraite. Mais à partir du moment où on veut garder le principe de la répartition, il faudrait déjà commencer par avoir une politique familiale ambitieuse. Or, aujourd'hui, depuis 5 ans, en tout cas, on a un indice conjoncturel de fécondité qui ne cesse de diminuer, qui est bien évidemment en dessous de 2, donc le seuil de renouvellement des générations n'est pas assuré. Et monsieur Delevoye lui-même, dans un propos qu'a fait polémique la semaine dernière, nous expliquerait que si nous voulions la pérennité de notre système par répartition, il nous faudrait plusieurs dizaines de millions d'immigrés qui arriveraient dans un laps de temps suffisamment court. Donc nous, on s'interroge et on dénonce le fait de vouloir préserver le système par répartition, qui nous semble bon d'ailleurs, cette solidarité intergénérationnelle qui fonde le pacte et l'affectio societatis, comme on l'appelle chez les savants, mais pour autant, commençons par avoir une politique familiale ambitieuse plutôt que d'essayer de mettre des bouts de scotch et de sparadrap, en plus en n'étant pas suffisamment transparent ni clair sur la manière dont on les appliquera.
Pierrick Mallier-Arcelin, Boris Baudouin, donc pour la CGT, disait que du côté de la CGT, on parle d'une réforme systémique, c'est-à-dire qu'elle remet en cause quand même quelque part un peu l'esprit de départ, cette solidarité nationale sur un certain nombre de grands sujets donc, que vous avez dit, qui ont été décidés après-guerre, quand le gouvernement vend ça comme une énième réforme paramétrique. Est-ce que vous iriez jusque-là, réforme systémique, remise en cause même de l'esprit du système des retraites français décidé après-guerre?
Oui, bien sûr, je vais jusque-là, parce que réforme systémique, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est bien l'esprit de la réforme, c'est à la fois de bouger le système, et à la fois de modifier le système, et à la fois de modifier les paramètres. Donc on modifie deux facteurs en même temps, l'un plutôt structurel et l'autre conjoncturel. Encore une fois, on constate tous l'allongement de l'espérance de vie, on constate tous l'allongement de l'espérance de vie en bonne santé également. Donc tout le monde a conscience, encore une fois, qu'il faut faire évoluer ça. En revanche, c'est pour l'aspect paramétrique, si vous voulez. En revanche, pour l'aspect systémique, effectivement, on ne va pas vers un système de retraite par capitalisation, ce qui a été écarté de toutes parts. En revanche, ce système par points, finalement, il tend à un peu plus d'individualisation. Voilà, et ça nous le regrettons profondément, parce que, encore, nous sommes les premiers à promouvoir donc la famille, la notion de foyer, et pour ce qui est de fiscalité ou de politique allocataire, de foyer fiscal, l'individualisation, ça ne va justement pas dans le sens dans le sens d'un renforcement du foyer.
Boris Baudouin, on va finir, vous aurez le mot de la fin, on risque d'en énerver certains, on refera d'autres émissions, on invitera d'autres syndicats et cette fois on les aura en plateau. Est-ce que vous retrouvez un petit peu dans les propos des AFC, est-ce que la CGT aussi alerte un peu sur ces histoires de droits familiaux?
Oui, effectivement, parce que ce qu'on a regardé, c'est que dès le premier enfant, il y aurait une majoration de 5%. Mais si j'ai bien tout compris aussi, parce que c'est pas toujours clair, c'est qu'il y aurait le choix.
Vous nous rassurez, même vous y perdez.
Ouais, on peut s'y perdre des fois, mais c'est que le choix serait fait entre le père ou la mère de celui qui en bénéficierait. Donc ça veut dire que ça peut remettre en cause, plutôt accentuer un peu le système patriarcal tel qu'on a en France. Donc pour ce qui est de la CGT, voilà, c'est un peu compliqué de défendre ça. Mais surtout, c'est que effectivement. par rapport aux femmes qui ont souvent la situation d'abord la plus précaire, parce qu'elles ont souvent le temps partiel imposé. C'est elles, au final, qui vont pâtir le plus de cette réforme. Et peut-être que, justement, la décision de faire des enfants, bah, demain, sera de regarder un peu plus encore d'un point de vue économique. Et je ne sais pas si c'est forcément bon. Et donc... après, bien sûr, je ne partagerai pas sûrement toutes les propositions et l'analyse qui est faite par l'AFC, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est une réforme à la fois systémique, ça a été dit par monsieur tout à l'heure, et après avoir réformé notre système, ils vont allonger la durée de temps de travail, enfin de durée de cotisation, et Sam, ils ont de plus en plus de mal à se cacher derrière cette volonté.
Eh ben merci à tous d'être venus au micro de Vivante Église en ce matin donc du jeudi 5 décembre, en cette journée de grève. Il y aura bien d'autres émissions, des émissions donc peut-être plus contradictoires, mais en tout cas, je pense qu'il était nécessaire de prendre le temps de voir ce qu'il y a dans cette réforme. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.